La nouveauté rock française avec Chris.
Bienvenue à toutes et tous dans ce hors-série numéro 14 de la nouveauté rock française sur Restless consacré à Commodore. Alors j'ai le plaisir de recevoir
Ronnie,
Slide,
Méline,
Elric
et Gozo. Comment allez-vous?
Très bien et toi?
Super.
Moi ça va, pas de problème, c'est surtout vous, vous venez de un peu loin peut-être, mais sinon le séjour sur Paris se passe bien.
Très bien jusqu'à présent.
Parfait. Commodore est un quintet originaire de Douarnenez, je prononce bien.
T'as bien révisé tes fiches.
Parfait.
Finistère, parce que Goudou il est de Saint-Divy dans le Nord Finistère.
D'accord, bon c'est loin.
C'est à une heure.
De Douarnenez ? Ah ok, d'accord. À pied ou en voiture?
Non, en bagnole.
En bagnole, d'accord. Alors, le projet a été formé en 2017.
Exactement. Ouais, 2017, ouais.
Au départ, c'était 3, après c'était 4,
et puis maintenant, c'était 5. 4 au début.
4 au début.
Ouais, exactement. Et Méline nous a rejoint
sur le dernier album.
Premier album, ouais. D'accord. Le line-up actuel, il est là depuis quand? Depuis quelle année?
Depuis 2021.
20. Ouais, ça ouais.
2020.
Alors, par ordre d'instruments, Slide, au chant et à la guitare.
Exactement.
D'accord, ensuite
Moi, je suis à basse et chant.
Et moi, à la guitare.
Guitare et chœur.
Et à la batterie.
D'accord. Ça a toujours été comme ça ou parfois ça change ou non
Non, ça a toujours été comme ça.
Ouais, hein. On a pas changé d'instrument, non.
Ouais. Alors, à l'origine du projet, c'est qui?
Bah, c'est un peu toi, hein. C'était la base, il y avait c'est vous deux qui vouliez monter un groupe. Et après moi j'ai visité sur Paris, en région parisienne à l'époque. Et je faisais pas mal aller-retour. Et puis les gars ont dit vas-y on fait un projet. Ricky est venu s'installer à Nantes, on répétait à Nantes après. Et Goudzou nous a rejoint. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. On a monté le projet, après tout le monde est un peu revenu dans le coin. Et Méline nous a rejoint après. Parce que Méline était dans le coin, on avait déjà eu des groupes de potes ensemble quand on était plus jeunes en fait.
D'accord.
C'était notre chauffeur qui avait jamais conduit.
Ouais.
Mais on s'est dit... Du coup, on s'est dit, ouais, c'est un super pote aussi, c'est un bon camarade.
Prenons
du
comme
coup, on s'est dit, ouais, bah, tu fais de la gratte, tu sais chanter, allez, tu vas venir.
D'ailleurs, à propos, là, comme vous voyagez en van, tout le monde sait conduire ou il y a certains ne savent pas?
On est obligé. Hein.
Ouais. Tout le monde sait.
Ouais. Tout le monde sait.
Mais tout le monde n'est pas toujours en capacité de conduire.
Ouais. D'accord. D'où l'expérience du van qui est pas mal quand même.
Exactement.
Surtout derrière. Bon. À l'origine du projet, ça s'est fait. Commodore, c'est pas en tapant sur un vieil Amstrad ou en l'appelant l'ami Lionel que le nom du groupe vous est venu à l'esprit. D'où vient donc ce nom de scène?
Le nom du groupe, vas-y Ricky.
Ben, c'est toujours une question un peu compliquée puisque ça représente le groupe. Et on galérait pas mal et un coup on faisait de la moto sur le bord de mer, c'était très beau. Et les commandes des motos, les commodos, pour mettre les clignotants, tout ça. Je trouvais que ça sonnait bien dans les trois O, la symétrie pour faire un logo. Oui. Et donc voilà, on est parti là-dessus, Commodo qui s'est transformé en Commodore. Et en fait, c'est plus... Je suis en qu'autre chose parce que le K est très difficile en typologie.
Oui, c'est d'ailleurs pourquoi il est difficile.
Ben, ça peut vite ressembler à un R, enfin faire des beaux K, c'est compliqué en fait.
D'accord. Donc pour le coup, rien à voir avec le chien qu'on appelle Commodore, il n'y a pas de tout de lien quoi.
Non.
C'est lié.
Tu tapes sur le net, ça, c'est quand tu fais une recherche Google, ça c'est tout.
Exactement. Voilà, effectivement, je vais pas.
Rien à voir non plus avec Lionel Richie.
Exactement aussi, et puis non plus avec les Amstrad de l'époque. Alors si on avait hésité à l'époque avec un autre nom, ça aurait été lequel?
C'était, on avait hésité avec Atomic Circus, qui est le nom de notre assaut du coup.
D'accord.
Oui c'est vrai. Ou ça remonte, ouais.
Mais ça, c'était à la création du groupe, ouais.
D'accord, donc c'était Atomic Circus. Et surtout, parmi tous les autres titres de groupe que vous connaissez, quel serait le nom de groupe que vous n'auriez pas supporté porter?
Elle est bien cette.
Ah elle est bien, ouais. Elle est bien et dure.
Ouais. Il y a un paquet, ouais.
Ouais, on y va, on slash.
Ah, un truc genre du pistolet et des roses, un truc comme ça, ça aurait été un gras, ça, je pense. Du flingue et des roses, ouais.
Du flingue et des roses, ouais.
Ça c'était pas supportable du tout.
Ça aurait été un gras comme nom, ça.
D'accord. Bon, très bien, en tout cas.
Beurre doux.
Alors, côté discographie, vous me dites si je me trompe, vous avez un premier EP, éponyme, qui est sorti en 2019, un premier album en 2022, Nasty Habits, je comprends bien. En 2023, alors vous faites un side project, c'est ça, Common Rag and the Moonodor.
Exactement, ouais.
D'accord, avec
ça s'est monté en 2021, ouais.
Comment?
Ça s'est monté en 2020. 2020.
Ouais. C'était le hasard un peu, ou c'était une nécessité, un besoin, ou c'était lié au Covid?
Non, c'était le hasard, hein. C'était ouais, une rencontre.
C'était le hasard, ouais, une rencontre. C'est l'humain qui a fait. Hein.
D'accord.
On a rencontré deux zozos bien chouettes, là, et puis on était connectés humainement et puis musicalement avec eux, et puis ben, l'aventure a démarré comme ça, en fait.
Donc il en sort un album, Green Fields of Armorica.
Exactement.
D'accord, et pas America, bien sûr. Alors, dans ce nom, il y a un côté tellurique, armorique. Est-ce que les racines bretonnes sont importantes pour vous? Est-ce qu'elles sont même inspirantes?
Clairement. Ouais, on est fiers d'être breton, et puis on a plein de choses à raconter sur notre pays, on va dire.
Oui.
Que musicien, oui.
Oui.
On a baigné là-dedans, on a eu la chance d'avoir une région, et même nous un département avec une forte identité culturelle dans la musique, et puis dans le folklore, donc on était imprégné un peu de ça, je pense.
D'accord. Vous faites le festival Celtic à Lorient, pas du tout?
Ben, Mathieu a joué.
Moi j'ai joué, oui, avec Nolwenn Corbel, ouais.
D'accord. C'est très bien. Été, ouais. C'est une fois, c'est tous les ans.
Comment ?
C'est tous les ans, c'est au mois d'août.
C'est tous les ans, ouais.
C'est au mois d'août. Alors, enfin, l'arrivée cette semaine, le 30 janvier, du deuxième album, Time and Space.
Exactement.
D'accord. Time and Space. Pour certains illustres, la terre, le vent, le feu ont été les fondements de leur story. Pour Commodore, les deux éléments, le temps et l'espace, ont-ils la même portée ? Sont-ils la clé de la voûte céleste du groupe ? La bonne étoile ? Pourquoi le choix de ce nom d'album ?
Doctor Who, quoi. C'est à cause de Doctor Who.
Ouais, voilà, ouais.
Uniquement,
entre autres.
Non. Ouais, si, je crois que c'est ça, parce que on est en train de chercher une idée de nom d'album. On voulait pas spécialement prendre, et de pochette aussi. On voulait pas spécialement prendre un titre de l'album en nom d'album. Et en fait, il y a une affiche. On était chez moi à ce moment-là. Il y a une affiche de Doctor Who. Il y a marqué Time and Space.
Oui.
Et on s'est dit, en fait, c'est cool. Sinon, il y avait Pain Maritime pour Ronnie. Ouais. Parce que, ouais.
Oui,
ils sont
maritime.
Des beaux pains maritimes.
Gros visionnaire. C'est un gros visionnaire, le Ronnie.
Alors, Pain Maritime ou Pain Maritime?
Pain Maritime.
Pain Maritime?
Ouais, le Pain Maritime, ouais.
D'accord, c'est quoi? C'est un arbre particulier?
C'est un arbre de port chez nous, ouais.
Ah, ok, il a une particularité.
Sur lequel a phasé notre bon Ronnie.
J'avais peut-être un peu fumé avant, ouais. Excusez-moi.
Ah, bon, d'accord. Alors, s'agit-il pour autant pour Commodore de marquer son passage dans le temps et l'espace de la scène rock française, ou pas du tout? Il n'y a pas de lien, d'avoir une empreinte du tout?
Bon, je pense qu'on fait juste ce qu'on aime, on n'a pas une volonté de marquer la scène française. On fait juste qu'on kiffe, et puis c'est entre potes, quoi.
Ouais.
C'est une aventure humaine, ouais.
D'accord, pas d'envie de marquer de son empreinte. Et ce côté leg, ça ne vous soucie guère, pas du tout, non?
Bon, je pense qu'on a juste envie de faire ce qu'on fait, puis on est fiers de venir d'un petit bled, tu vois, et puis dans lequel c'est pas forcément. Il y a quand même beaucoup de rock dans notre bled, tu vois, mais c'est juste exporter notre musique et de jouer à fond et de pouvoir voyager avec ça, c'est cool, quoi. C'est notre volonté, quoi, juste.
Alors ce Time and Space, c'est un peu le money time du groupe. C'est ici et maintenant, et c'est vraiment, en fait, on vit l'instant présent à fond dans cet album.
Bah, c'est un peu ça, le rock, c'est un peu ça, quoi. C'est vivre assez intensément l'instant, le moment présent, quoi. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, en tout cas. Mais...
Oui, carrément.
Ouais, on vit les choses intensément. Hein.
Ouais. Je suis d'accord avec vous, les gars.
Alors, dans cet album, on bloque le temps, on occupe l'espace, on se lâche comme si tout s'arrêtait, on vit les derniers instants, ou alors on prend conscience de la vie, de ce qu'elle vaut d'être vécue. À propos des derniers instants, sans faire de spoil alerte, et si on commençait au point de bascule de cet album, c'est-à-dire à la fin, top of the block, point de bascule.
Ouais, top of the block, ouais.
Ouais, top of. Ah ouais, est-ce que j'ai bien prononcé? Top of the block. Alors, la vie serait-elle une fanfare, finalement, puisqu'à la fin de ce titre, il y a une fanfare? Est-ce que c'est une fanfare?
Est-ce que la ville ne serait pas une fanfare?
Oui.
La ville de Dordogne ne serait pas une fanfare, bien sûr que si.
Et pour quelle raison?
Parce que c'est une ville de fanfare.
C'est une ville de fanfare.
Il y a beaucoup de fanfares dans notre bled.
Ah oui, d'accord. Ouais. Mais la vie, sinon. La vie, ouais. Sinon, telle qu'elle est représentée, peut-être dans ce titre, est-ce que c'est une fanfare? Ça débute, je sais pas, montée de genoux avec les majorettes. Et puis finalement, dans ce titre, on sent la musique quelque part, le son s'éloigner petit à petit, comme si quelque part ça remonte, ça redescend, comme si ça s'éteignait. Voilà, est-ce que c'est une...
Ça revient, du coup, il n'y a pas l'envie de s'arrêter, tu vois.
Oui, ouais, c'est exactement, je suis d'accord avec toi, ouais.
Ouais, bah ouais, puis on vient de vivre, il y a vraiment la fête, il y a un carnaval aussi, tu vois, il y a des fanfares, c'est un peu... C'est la fête qui s'arrête jamais pendant toute une semaine quasiment, tu vois.
Oui.
Et donc c'est très ancré dans l'identité de la ville. Et du coup, le fait de mettre les cuivres et d'avoir des locaux qui jouent là-dessus, c'était mortel parce qu'en fait, on n'avait pas envie de finir un album de manière propre avec un truc hyper concis.
C'est un petit
et là, c'était juste un petit clin d'œil à la ville, quoi, c'est ça le truc un peu.
Quand même, sur un morceau qui parle de Douarnenez, enfin, c'est
C'est les sardinières.
C'est les sardinières, ouais. C'est, du coup, pour nous, ceci, ça a beaucoup de bon, c'est exécuté un peu.
C'est un peu un clin d'œil à l'histoire de Douarnenez, quoi. Je pense.
Clairement.
Je pense que cette ville avec les grades Douarnenez, qui est le carnaval aussi, parce que c'est une fanfare.
Oui.
D'où les fausses notes à la fin aussi. Je pense que bon,
oui,
ça s'arrête jamais, mais des fois, vaut mieux s'arrêter. À 3h du mat, par exemple.
Ah, effectivement, alors il n'y a pas forcément l'heure qui est collée au titre, mais on se doute bien que c'est sur la fin.
Le noctambule, ouais.
Bon.
Et oui, la vie est une sacrée fanfare.
C'est une sacrée fanfare.
Plein de fausses notes.
Plein de fausses notes. Bon, ça sent le vécu.
Sur la fanfare.
Ça sent le vécu.
Ouais, c'est plein de.
Mais c'est pour tout le monde pareil.
Ça bouge, quoi.
Ouais. Alors, Time and Space, à bien des écarts, est expansif, démonstratif. Ce n'est pas de la musique de chambre. Avez-vous songé un jour ou l'autre à faire une comédie musicale?
Notre vie ressemble déjà à une comédie musicale.
Ça serait super, les gars.
Parce que Ronnie se met au chant aussi, là, donc avec la vocation de tous nous éclater. Donc, c'est peut-être le moment de faire une bonne comédie musicale.
Mais un par un, en plus.
Un par un, c'est-à-dire?
Non, t'inquiète.
Il y a déjà des rôles qui sont définis, non? Des personnages particuliers?
Bah, chacun dans son propre rôle.
On a déjà Ronnie and Snide.
Oui.
Qu'on a créé ces personnages-là pour Common Rag. Ouais, on n'est pas à l'abri de faire une série télé, quoi.
D'accord.
Sur TBO.
Sur TBO, ouais.
Faut que ça reste local, quand même.
Ouais.
Alors, bon, vous savez nous faire rêver, nous vendre dans cet album des destinations de rêve, telles Ravish Holy Land. Hein, je prononce bien. Quel est ce land imaginaire de Commodore? À quelle couleur pourrait-on associer le rêve de Commodore?
Ah, c'est un petit rêve psychédélique, quoi.
Ouais.
Tu vois un peu le délire avec le nom de la chanson, déjà, quoi.
Oui.
Mais je peux pas expliquer plus que le nom.
Alors justement, par rapport à ce titre, est-il inspiré de Terre de Légende, Armoricaine? Quelle est la place du rêve chez Commodore? C'est hallucination, onirisme, c'est quoi?
Là, on est plus dans le rêve, mais côté Inde un peu.
Ouais.
Vraiment le côté de CF. En fait, on est vraiment aussi on est hyper fan de la partie, quand les Beatles sont partis en Inde et tout, on est vraiment fan de ce truc-là. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir comme ce revolver, un peu, tu sais, ce côté où t'as de la sitar, un peu, tu en avais acheté. En fait, Mélide avait acheté une Ravi Sitar, c'est une pédale qui reproduit des sons de sitar, du coup.
Ouais.
Et l'idée, c'est de créer un morceau qui soit lié à ce truc-là, un peu, avec des nappes un peu planantes, tu vois.
D'accord. C'est-à-dire qu'au sein du groupe, il y a des influences un petit peu externes à la France, plus orientales, ou ça vire vers quelle plutôt destination les influences, autres que France?
Je pense que.
Autres que British, pour le coup.
Je pense qu'on est aussi pas mal imprégné de la musique celtique, parce qu'on est entouré de ça chez nous quand même.
Ouais.
Et obligatoirement, ça nous ouvre notre oreille, quoi, différentes sonorités, et puis on a envie de les appliquer, quoi.
Et là-dessus, vous êtes, c'est le consensus total par rapport à ces influences, ou c'est difficile à insérer dans les titres?
Je pense qu'on est, c'est des influences communes, donc forcément, on se retrouve assez là-dessus, je pense. J'ai l'impression, en tout cas.
Ouais. Et puis ce morceau, il vient aussi d'un dessin à la base. Les paroles, c'est la description d'un dessin qui était une idée de pochette qui a été avortée.
D'accord. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un débat peut-être sur la pochette.
Ouais. Un long débat.
Bon, il est clos, le débat.
Il est clos.
Il est clos. Marathon.
Tout va bien. Donc,
Alors, sans
transition. Oui, c'est ce monde imaginaire là.
Sans transition dans votre nouvel opus, la folie se chante et semble délirante. Madness est une composition où on semble attendre le synthé, l'orgue. Elle semble être liée au titre Fall Guy. Est-ce un effet d'optique hallucinogène ou pas? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux titres?
Ouais, c'est costaud tes questions.
Oui, mais c'est votre album.
C'est du costaud, ouais. Je pense qu'on n'a pas été aussi loin dans la recherche que toi.
Oui. Alors,
vous pouvez répéter la question?
Alors, sans transition, dans votre nouvel opus, la folie se chante et semble délirante. Madness est une composition où on semble attendre le synthé, l'orgue. Elle semble être liée au titre Fall Guy. Est-ce un effet d'optique hallucinogène?
Il y a un peu de ça, et puis un côté très, côté liberté, et puis un peu démence, d'un côté dans l'expérience psychédélique, on va dire, surtout sur Madness, par exemple.
Sur Madness.
Ça devait être une balade.
Ouais.
Ouais.
À l'origine.
Ça devait être une balade, ouais.
C'est la base, c'était Marie qui nous disait, ouais, ce serait bien d'avoir une chanson calme. Du coup, on a fait le plus bourrin qu'on pouvait faire.
Avec des paroles à la con. Pour un peu de détente.
Pour détente, pour ouais. Lâcher prise. Alors effectivement, dans Fall Guy, il y a un peu de, je trouve, de Van Halen, très planant, avec cet effet psyché. On pensera aussi à Ave Mana, je sais pas si vous connaissez.
Ouais, bah, ça me dirait comme ça.
D'un groupe de scène rock française du Sud. Donc c'est un titre très complet. Cette composition faite par les Fall Guys que vous êtes donne une impression où il y a de nombreux instruments qui seraient utilisés plus que sur les autres titres. Est-ce que c'est le cas ou pas?
Ouais, bah c'est le seul morceau sur l'album où c'est... Où c'est parti d'une boucle,
ouais.
Qu'on a enregistré avec un synthé,
ouais.
Et du coup on s'est dit vas-y, on va baser le morceau sur cette boucle de synthé.
D'accord. Voilà. Et cette boucle de synthé. Et c'est vrai que dans ce titre il y a des effets aussi au niveau du casque droite gauche.
Ouais.
C'est volontaire.
Ouais, carrément.
On est panoramiquer les effets, ça Goose, c'était pas mal ça, c'est cool.
Ouais, et puis mon studio s'appelle TAF Panoramique, c'est TAF, ça veut dire tout à fond.
Exactement. Ça voilà. Je l'ai repéré celui-là.
Ouais. Ouais.
Effectivement, c'est tout à fond. D'ailleurs, c'est votre album, tout à fond.
Oui,
hein, c'est pied au plancher.
C'est la vie qui est tout à fond.
Alors, dans cet album, combien, effectivement, alors pour le coup, question piège ou pas, combien d'instruments y a-t-il dans cet album?
Waouh. Alors, on va faire le compte. Il y a trois guitares, guitare acoustique, 12 cordes, une 6 cordes, un synthé, un térémine, une batterie. Et alors là, on va se perdre dans les percussions, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'on a 6 percussions en plus. Congas.
Je sais pas si le grand plat à la tagine, là, de connard, là.
Allez,
timbal. On est à 10. Maracas, tambourin, vibra slap.
Ça, c'est le serpent à sonnette, ça.
Serpent à sonnette, bâton de pluie.
Bâton de pluie?
Oui.
Et c'est quoi, un bâton de pluie?
C'est un gros petit bruit de glace moulée à l'intérieur.
D'accord.
Un bout de gouttière. Oui, exactement. Et je crois qu'une râpe à fromage. Et sur l'autre d'avant, il y avait une boîte à meux, ouais. Donc là, on est déjà à 17.
Ouais, c'est pas mal.
Les cuivres. Les cuivres, ouais. Les cuivres. Donc, trompette, trombone, sax ténor, sax alto, on est à 21.
Pierrot aussi avec son violon.
Violon.
Il nous a fait des cordes aussi. Et maintenant, enfin après, des cœurs aussi, des cœurs,
ouais,
cœurs machines.
Ouais, mettre un bal, on a dit, ouais. Oui. harmonium.
De l'harmonium.
Harmonium, exactement. Aussi, ouais. De l'église.
Exactement, ouais.
Ouais, bon, elle arrive.
Bon, ça fait un trentaine, quoi.
Voilà.
Bon, alors, forcément, la question qui arrive, c'est lequel qui manque? Lequel, finalement, à quel instrument vous auriez songé et qui n'apparaît pas dans l'album?
Bah, ouais, piano, l'orgue, piano, ouais.
Piano, un morceau au piano, ça aurait été incroyable.
Un voix gutturale, ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas.
On a mis une grosse bombarde là-dedans.
Alors, dans cet album, on aura la joie de vivre avec Bliss and Joy, un titre fun de sonorité 60s, riot en son cœur, puis Raise and Your Hands, un titre Wild West où on éprouve des sensations proches de Steppenwolf, je trouve. C'est sauvage et festif, mystérieux, avec un triple 6, 666. Alors, ce titre, racontez-moi surtout ce Raise Your Hands. Il y a tellement une histoire derrière.
Ça, c'est une sacrée histoire. Ça parle de liberté, mais bon.
De liberté, ouais, ouais. Certainement, oui.
Vous êtes ouvert dans votre radio.
Oui.
Ouais, bon. Ça parle aussi de...
La liberté d'entreprendre.
Voilà, ouais, ça,
bon, ça, d'entreprendre,
ça parle de l'égalisation de
faire, produits interdits. De faire pousser des choses de manière naturelle qui n'ont pas vocation à faire du mal, là.
D'accord, très bien. Ok, je vois.
Tu vois le délire?
Je vois. Je suis un peu. Je commence à basculer, mais je vois. Alors, justement, être libre aujourd'hui pour Commodore, est-ce que c'est pas faire que de la musique? On est libre à partir de quand?
Quand on est libre.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que matériellement ou pas matériellement, on se sent libre?
À vrai dire, moi, franchement, à titre personnel, je trouve que la plus grosse des libertés, c'est de vivre de sa passion avec ses potes et de voyager avec eux. Et ça, c'est un truc de ouf. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est la plus grande des libertés en tout cas. On peut avoir entre guillemets on n'a pas de contraintes en fait, de taf à côté. On fait juste ce qui nous plaît et on bosse pour nous. Et en fait, c'est incroyable, quoi. C'est juste ouf.
peux pas dire.
Trop envie de s'amuser.
J'ai même les larmes aux yeux.
Grosse liberté, quoi.
Grosse liberté. Alors, justement, pour l'écriture, est-ce que vous êtes tous en accord pour l'écriture?
Ouais. On bosse à. De toute façon, comme on disait, on est vraiment une putain de démocratie dans le groupe. En fait, en gros, c'est on bosse tous ensemble et on vote. Et c'est, en fait, c'est la majorité qui l'emporte, donc je pense que tout le monde trouve son compte là-dedans, quoi. Ça permet aussi de mettre son ego de côté, si à titre personnel, tu vois. Si t'as un riff qui te plaît pas, bah, et que la majorité bah, le kiffe, bah, tu vois, t'es obligé de te plier à ça, tu vois. Et c'est cool, quoi. Même en exercice sur l'ego, c'est hyper bien.
Très bien. Et ça vous va tous, forcément?
Bah, j'ai l'impression.
Je suis content. J'ai vu une démocratie.
Oui, oui, carrément, ouais. Bah, oui, du coup, ouais, je pense.
Tu as voté? Bon, c'est bon. Parfait. Revenons à la réalité avec Art to Rail, un rayonnement à la The Who, notamment sous effet de chœur où on entend un hou hou.
Ouais,
vous en souvenez?
Oui.
Oui, parfait.
Les chœurs hyper aigus qui ont été un petit peu durs à reprendre en live au début, mais là on a commencé à bosser, ouais. C'est de mieux en mieux.
Alors, effectivement, la question c'est Who are you, Commodore? Ça va de soi?
Ah bah, on est fan, hein.
Parfait, j'avais pas vu. Franchement, ouais, ça c'est même pas hallucinogène, hein. Ouais.
On est bien dans la réalité là.
Et je pense que c'est un des, enfin titre perso, c'est un des groupes qui a un des lives les plus marquants pour moi, c'est le live at Leeds là. Pour moi, c'est un truc, c'est gros start, quoi. Oui. Un des meilleurs lives pour moi de l'histoire quasiment.
Alors justement, Who Are You Commodore, le secret du cœur de ces cœurs. Comment vous travaillez les voix? Vous les travaillez ensemble, séparément? Comment ça se passe?
Bah, il y en a un de nous deux qui trouve une idée, enfin, ou même Matt, il a beaucoup d'idées sur les voix. Et après. Après, on enregistre, on essaye si ça marche à la double voix, on essaye, c'est peut-être mieux si, par exemple, c'est Slide qui le chante plutôt que moi. Et,
on fait plein de tests.
On essaye d'harmoniser tout ça. On essaye et on voit si ça marche ou pas, quoi.
Chacun donne son avis vraiment aussi là-dessus, au final, parce que tu vois, on fait des tests et puis après, il y a souvent des idées qui émergent d'arrangement une fois qu'il y a une idée de base qui est là, tu vois. Du coup, c'est hyper cool, ça permet à chacun de dire, ah tiens, c'est peut-être d'apporter sa touch, même si la personne chante pas cette ligne-là, quoi. Ça, c'est cool.
À mesure dans le studio qui peuvent nous inspirer, enfin d'autres groupes qui ont fait des techniques d'enregistrement et tout ça, et du coup à chaque fois on essaye aussi de faire pareil ou de reproduire mais de
s'inspirer des trucs qu'on aime,
ouais. Et du coup ça nous fait marrer, ouais.
C'est un instant de plaisir de chanter ensemble.
Le studio c'est génial et puis en plus on fait les voix assez tard donc du coup on boit un peu de fuel, tu vois, et ça permet de se libérer un peu plus parce que c'est contrairement à un instrument où tu peux te cacher dans ton instrument, mais avec la voix t'es à poil, quoi. Clairement, c'est vraiment intérieur, ouais, donc
ça vibre.
Ouais, et puis il y a vraiment un truc où c'est beaucoup plus intime qu'un instrument, que la pratique d'un instrument en fait. Donc je pense que la voix, il faut être un petit peu désinhibé pour pouvoir être soi-même vraiment en tant que chanteur, tu vois. Sachant que nous. Ouais, sachant qu'en plus, nous, on n'est pas des chanteurs de base, tu vois. On a chanté parce qu'il fallait chanter. Et à la base, on faisait de la zik. Et puis, on s'est dit qu'à un moment donné, on peut pas faire sans chant, tu vois. Donc, on a commencé avec du yaourt, ces trucs-là, tu vois, forcément. Donc, maintenant, c'est encore plus cool avec le temps qui passe. Ben, on a de plus en plus d'expérience et on est plus à l'aise qu'avant, quoi.
Alors, il y a Soul Tricker. Donc, c'est la fusion totale, je trouve. Une fusion folle. Le Soul de Commodore également. Alors, nous viennent de manière sensationnelle le Trumps, les 70s, le groove avec cette ligne de basse ensorcelante avec un vortex intentiné de disco comme si Snafu avait été recruté par la Motown, on va dire. Hein. Bon, dans votre manière de composer.
C'est un bon. Non, ouais, il a tout compris. Ouais, c'est vraiment bon.
On a pas
besoin
de nous.
Dans votre manière.
T'as littéralement tout dit.
Dans votre manière de composer, laissez-vous une partie justement d'improvisation.
Moins sur cet album, il y a eu moins de côté jam, un peu moins quand même.
C'est le seul morceau qui a été composé avec la ligne de voix en premier. Ouais. C'est t'avais la ligne de voix avant qu'on ait la musique.
Il y avait l'idée de faire un truc un peu tribal, d'avoir un truc très très intense et très tendu tout du long.
Mais dansant aussi, ouais.
Et dansant, ouais. Et le truc tribal, un petit peu, un peu mystique, un peu. Puis on était fans des groupes comme Nazareth aussi. Ils ont ce genre de morceaux un petit peu parfois, Barabbas aussi, ce genre de choses. Et on avait vraiment envie d'avoir un morceau qui soit un peu tribal avec des rythmes. C'est très tambour au niveau même dans la manière de jouer la batterie. Tu vois, toi t'es sur les toms beaucoup. Et comme tu dis, le côté disco, tu sais, un petit peu sur le pont là, avec une descente.
Il y a un côté, ouais, dansant. Il y a aussi un côté un peu dark, moi je trouve, dans ce morceau là aussi.
Ouais, puis les arrangements sont cool, mais après il n'y a pas forcément énormément grand chose aussi dans le morceau. Hein.
Il est assez épuré.
Assez épuré.
Je trouve. Enfin, pour nous, quoi.
Ah, il est très, il est rond. Alors, Ladies, un titre séducteur, rock'n'roll, en mode plutôt statu quo pour le coup, qui semble évoquer un autre statut, celui des femmes. Never give up, Ladies. La cause féminine, d'une certaine manière, est une motivation chez Commodore. Est-ce que c'est un credo rock?
Bah, c'est surtout un problème de l'humanité que on a voulu mettre un peu en avant. Mais parce que ça devrait être équilibré tout ça. On comprend pas pourquoi. Enfin, on voit bien pourquoi, mais ça devrait pas l'être.
D'ailleurs, vous le voyez surtout quand vous tournez sur des scènes, peut-être le nombre de groupes ou les compositions. Enfin,
surtout dans le milieu du rock, au final, c'est un milieu qui est pas forcément très mixte, mais qui est de nos générations qui a tendance à l'être de plus en plus. Tu vois, il y a des groupes comme Madame, Grand Machine aussi, avec qui on va jouer. Là, il y avait des groupes comme Pitties aussi qui était sur Douarnenez. Et puis, c'est des groupes qui tabassent de ouf, vraiment, c'est mortel. Et en fait, on aimerait bien que ce milieu soit plus égalitaire, en fait, que ce soit vraiment. On est beaucoup quand même, c'est un milieu très masculin, donc on aimerait bien que ça change aussi, quoi, que tout le monde puisse trouver sa place dans le milieu, quoi.
Ouais.
Dans tous les milieux.
Là, on en parle parce que c'est notre milieu professionnel, entre guillemets, mais c'est valable pour n'importe quelle branche du taf ou de peu importe, ou de la vie en général, quoi.
Exactement, effectivement, c'est bien d'avoir une démarche égalitaire.
Complètement.
Et puis, effectivement, on peut parler de Grand Machine, Madame, il y a encore, dernièrement, que j'ai découvert un
groupe de Robert Alibs aussi, Elvilda aussi.
Exactement.
Il y a plein de groupes incroyables.
D'ailleurs, est-ce qu'il vous est venu peut-être parfois de faire entrer, alors peut-être que c'est déjà le cas, j'ai peut-être pas lu toutes mes notes, une voix féminine ou une artiste féminine dans le groupe? Ouais.
Oui, il y a eu, dans les chœurs, il y a eu nos. Sur tous les albums, il y a eu des voix. Et Eline, la chanteuse de Blues Pills, avait fait des parties lead sur le. Et des chœurs d'ailleurs aussi. Lead et chœurs sur le premier EP. Sur n'importe quel album, il y a toujours eu des chœurs, des parties de voix féminines. Parce qu'il y a eu une copine parfois. Et il y a eu aussi des choristes aussi qui étaient venus faire des parties aussi vocales. Donc on a toujours eu la volonté d'avoir ça. Parce qu'il y a le côté aussi hyper classe, hyper soul de ces genres de voix, quoi. Que nous, on adore en tout cas dans.
Parce que ça adoucit ou c'est parce que. Non, du tout. Ça complète.
Parce que ça complète et que c'est hyper bien d'avoir toute cette palette sonore, en fait. C'est juste ça, quoi.
D'accord. Alors, Once Upon a Time in the West. C'était assez évident. Hein. Quand la Bretagne vous gagne, elle vous gagne vraiment.
Oui. Bah, tu prêches un converti. Je suis né là-bas. Je pense que ce serait complètement biaisé. Mon avis est biaisé. Oh, il va se taire, lui. Attends, ouais. Pour la petite anecdote. You're welcome, dude. En fait, on a une team de supporters de Newcastle hein, qui ont un débit de parole assez dense et un volume sonore assez vénère.
Alors,
désolé, rattachant.
Non, il y a aucun souci. Ce titre, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time, ce titre a beaucoup de couleurs et a un ressenti très positif. Il semble fraternel avec des chants enivrants tels les premiers instants de Ghost, avec des riffs de battements à la Wings, avec ce côté ascensionnel également de Zeppelin, voire des airs d'Aerosmith et de Bowie. Quelles sont finalement les influences de Commodore?
Un des morceaux de. Effectivement, tu parles des Wings et effectivement, il y a le morceau. Des Wings que j'ai oublié.
Mais des Wings.
Stand on the Run.
Bien joué.
Ouais, ça m'a beaucoup inspiré, ça, ouais.
Ouais.
Notamment sur le riff d'intro, quoi.
Ouais.
C'est vrai que c'est. Quoi, j'ai une crotte de nez?
Non, faut que tu rapproches.
Ah, tu
un petit roulé.
Ah, oui, pardon.
Je connais pas.
Et effectivement, ça m'a fait beaucoup inspiré.
Et donc, les Wings?
Oui, carrément.
Les Wings.
On est tous. Méline et moi, on est très fans de tout ça. Et après, c'était surtout Bowie aussi au début.
Beaucoup Bowie, et puis toute la partie un peu glam rock britannique aussi. J'en ai fan de T-Rex. Nous, il y avait vraiment une volonté d'avoir une identité sonore un peu acoustique, électrique, et puis un truc hyper épuré.
Ouais.
Un peu presque balade rock en fait. C'est un peu l'idée quoi, de ce morceau-là. Quoi.
D'accord, ok. C'est un des morceaux les plus complets pour vous? Pas du tout, non?
Peut-être c'est un des plus aboutis, j'aurais envie de dire.
C'est un des plus éloignés de ce qu'on a l'habitude de faire en tout cas, je pense.
D'accord. Pourquoi il est plus éloigné?
Parce qu'il est pas du tout dans la. Nous, on a fait beaucoup de. Enfin, on a souvent fait des morceaux avec du riff, tu vois, vraiment, ou de la gratte et dans l'énergie. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une ligne vocale bien, bien construite et de créer de l'air, de créer vraiment des moments de grosse dynamique. Et ça a été, dans l'architecture du morceau, je pense qu'on n'a jamais fait quelque chose qui était aussi différent de ce qu'on a pu faire avant, en tout cas, quoi.
Alors après le passage dans Burn and Lane, un titre plutôt nostalgique avec une fibre légendaire sous l'effet de la voix solo. Alors la voix solo de qui? de slide. Commodore et ce nouvel opus Time and Space laissent-ils une impression de terre brûlée ou de terre fertile? Est-ce que ça signifie qu'après ce passage de cet album, est-ce qu'il y aurait éventuellement un autre opus? Est-ce que ça signifie également que parmi tous les autres titres, enfin tous les titres qui ont été écrits dans cet album, est-ce qu'il y a d'autres titres qui ont été laissés de côté ou pas? Est-ce que c'était uniquement 11 titres? C'est 11 titres, c'est ça, hein,
c'est
11
ça.
Titres. Ou est-ce qu'il y avait 13 titres, 14 titres et il y a eu un choix à faire?
Non, là, c'est vraiment les titres qu'on a composés, qu'on s'est retrouvés, ouais. Enfin, qu'on a vraiment commencé à bosser l'album, parce qu'on avait commencé certains morceaux, on a commencé à bosser certains morceaux au tout début de la création du nouvel album, mais qu'on n'a pas gardé, enfin, qu'on n'a même pas vraiment fini. Donc, du coup, là, c'est vraiment les titres qu'on a bossés lorsqu'on s'est vraiment dit, on fait l'album, on s'y met. On n'a pas fait plus ni moins. Ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait comme ça?
Ouais.
D'accord. Sans. Il n'y a pas de regrets, pas de remords?
Jamais.
Non. De très content de cet album. On a mis beaucoup de cœur à le créer et pas mal excité aussi au moment de la création, quoi.
Il est, je pense qu'il est, comme on dit, comme n'importe quel album, forcément il est pas parfait, mais je pense qu'on l'a fait avec du cœur et puis avec envie. Ouais. Il est généreux et je pense que c'est vraiment ce qu'on avait envie de donner dans cet album, quoi. Ça peut toujours être mieux, on pourrait toujours aller plus loin de toute façon, comme n'importe quel projet. Mais au final, quand tu fais quelque chose avec le cœur et que tu donnes l'énergie que tu as à donner dedans, ben je pense que ça. Et que c'est vrai, en tout cas, ça ment pas, quoi.
Alors finalement, la vie, comme on l'a dit tout à l'heure, la vie ne vaut d'être vécue que si elle est vécue à fond. Et ce n'est pas le tout à fond de votre studio d'enregistrement qui nous dira le contraire. Est-ce que Commodore, quelque part, c'est une chance pour vous?
Moi, je dirais oui. Moi, ça.
Bah, ouais, carrément. Et puis, ben, vu qu'on a la chance. On est trop content que ça plaise au public, on est trop content d'en vivre. Du coup, on se donne à fond maintenant pour garder le cap, quoi. Donc ouais, on va rien lâcher. Enfin, en tout cas, pour moi, je parle plus pour moi, mais je pense qu'on va rien lâcher, et puis on va se donner à fond, quoi.
Ouais, carrément. Carrément. Alors, justement, parler du public, côté concert, vous êtes en tournée à partir d'octobre. C'était à partir d'octobre 2025. C'est une tournée qui va aller au-delà du mois d'avril. Vous avez commencé à Plonquette.
Exactement.
J'ai bien prononcé?
Très bien.
C'est parfait. Et tout ceci pour soutenir votre second opus. Donc, vous avez commencé à Plonquette. Vous terminerez à Bordeaux à Lightboat. C'est ça?
De l'eau. Plonquette.
On commence par l'eau, on finit par le vin.
On commence par l'eau et on finit par le vin, ouais.
vous commencez finalement à Plonquette, c'est bien ça?
Exactement, ouais.
D'accord. Et vous terminez pour l'instant au mois d'avril?
Pour l'instant, il y a encore des dates qui n'ont pas été dévoilées.
Justement, on va y revenir. Ça serait plutôt à Bordeaux et vous passez à la Maroquinerie.
Exactement.
En mars. Mmh. D'accord, le temple du rock bien parisien. Alors, est-ce que vous êtes heureux déjà de toutes ces dates qui ont été faites, totalement par rapport
carrément.
À.
Oui, ouais, bien sûr.
C'est le génial, retour du public.
En fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a eu la chance d'avoir toutes ces dates qui tombent avant même la sortie de l'album. Donc, en fait, c'était même inespéré pour nous. En général, tu sors ton album et puis, en fait, en fonction des répercussions de l'album et des répercussions médiatiques, tu as de la date, quoi. Et en fait, là, on avait un volume de dates assez conséquent alors que l'album n'était même pas sorti. Donc, c'était même inespéré pour nous. On était hyper contents, en fait.
Puis avec des chouettes salles, quoi, des super endroits.
Je pense qu'on a aussi beaucoup de chance d'avoir des équipes qui bossent derrière et qui
carrément.
Croient aussi au projet. Et c'est aussi c'est grâce à eux aussi. Grâce au public et grâce aux équipes qui sont derrière, quoi.
Alors, par rapport à cette performance, tous ces concerts, ces dates qui sont tenues, est-ce que physiquement vous avez une préparation particulière?
Est-ce que physiquement on est comment?
Est-ce que vous avez une préparation particulière?
En général, au début d'année, on essaye de se remettre en forme.
Ouais.
Sauf que cette année, ça a très mal commencé. Mais on est sur le chemin de la rédemption, tranquillement.
On peut pas tout changer d'un coup.
Le problème, c'est qu'on a fait une bière pour la sortie de l'album, donc ça commence très mal pour la remise en forme.
Une bière avec un beau packaging.
Le packaging de l'album, ouais.
D'accord, à voir sur votre site.
Disponible, tu dis?
Ouais.
Je suis pas sûr qu'il y aura le temps d'en vendre sur le site.
D'accord, ok. Ouais. Ça sera au merch pendant les concerts?
Ouais, mais il va falloir venir très rapidement, je pense, parce que ça va pas faire long feu.
Bon. Faut s'occuper dans le camion. Hein.
Ouais.
Alors, j'ai lu aussi que, justement, après le mois d'avril, alors il y a des événements particuliers qui n'étaient pas forcément peut-être prévus. Je ne sais pas comment ça a pu se passer. Vous êtes présent a priori au Desert Fest à Londres.
Mmh.
Et surtout aussi également, alors surtout pas, hein, c'est pas, je sais pas comment on voit les choses, on prend la partie de ZZ Top. C'est ça?
Ça, c'est dingue, ouais.
Ouais. Comment ça s'est fait tout ça? C'est le hasard ou pas? C'est le téléphone ou le réseau?
En fait, c'est assez marrant. On a un tourneur qui fait de la, pour la partie justement des artistes, qui fait partie de 3C en fait, et qui bosse dans le milieu d'un peu du stoner et tout, et qui a vraiment un énorme grain de folie. Tu sais, on fait des réunions avec lui, le mec il a tout, il a une idée, il fait oh putain, vas-y, go, on y fonce, tu vois. Et en fait, genre quelques jours après, le mec il nous trouve la date, on se dit genre waouh, balèze quand même, tu vois. Enfin, ça c'est ouf, parce qu'en fait, nous on rêverait de jouer là, parce que la line-up il est incroyable, tu vois, c'est que des groupes qu'on adore. Et il était ouais, je vais vous faire jouer là, et bam et tout. On disait bah ouais, trop bien. Et puis quelques jours après, bam, il balance le truc, et c'est vraiment, il est dans le feu de l'action, quoi. Quand il a une idée en tête, c'est go, et du coup, bah, pour nous, c'est tout bénef, tu vois.
Alors, ça représente quelque part des rêves d'enfants qui se réalisent, ou des rêves d'ado, ou peu importe.
Ben,
non, des perso, rêves tout ouais. court.
Oui, je pense un rêve d'ado, ouais.
Ouais.
Bah ouais, tu vois, on a tous appris à jouer la grange à la guitare aussi. Ouais. Au début, et se dire qu'on va jouer avec les barbus là, ça va être cool, quoi.
Ah ouais, c'est un sacré souvenir, enfin, ah un ouais, truc énorme.
Nous, avec Moondrag, on avait fait la première partie de Deep Purple, et quand tu te rends compte que t'es avec Deep Purple, c'est ouf.
C'est comme si tu rejoignais quelque part la cover d'Enfer Magazine. Hein, on est connu Enfer Magazine, ouais, avec les posters et tout, et les punaises sur le mur. Donc ça, j'en suis. Si on part de petite salle, quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez en petite salle? Les anecdotes, des choses improbables qui ont pu vous arriver.
Avec Commodore ouais, en Espagne, hein, le Wurlitzer en Espagne, à Madrid.
Et je pense le Vauban à Brest aussi, super souvenir de ça, ouais.
Ouais, Vauban, ouais.
Ou les premières dates à Douarnenez aussi. Tout simplement, le millésime, ouais.
Le millésime, c'est une salle à Madon.
C'est un festival qui organise des amis,
ouais.
Musiciens. Et ça regroupe en fait tous les groupes locaux qui jouent dans les studios de répétition de Douarnenez, ouais.
Alors justement, la transition est bonne. Côté scène bretonne, elle se porte bien pour vous? Si vous aviez à mettre en avant des groupes, des noms de groupes,
oh,
on ne connaît pas forcément, quels seraient-ils?
Il y a Mansion Cellar.
Ouais, Waza.
Waza, de Douarnenez, ouais. Red Ghost Black, Bâtard. Ouais, pour ça, pour toute la scène
Douarneniste,
ouais. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Ouais, après à Brest, plus qui est plus punk, il y a Working Class Zero qui sont des anciens de No Place for Soul, Al Capote, Massisteria. C'est plus punk, mais ça envoie du steak, quoi. Puis après, bon, de toute façon, la scène bretonne a toujours été animée, hein.
Ouais.
Toujours eu plein de groupes. Et ça s'arrêtera jamais.
Non.
Non. Parce que de toute façon, le rock risque pas de mourir, en plus, c'est sûr. Bon. Si, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet album?
Bah, une bonne journée.
Une très bonne journée? Non, pas une bonne journée.
Ouais, qu'on ait pas trop de galères, quoi.
Pas trop de galères, c'est à dire.
Ouais, gardons la bonne étoile, ouais.
Gardons la bonne étoile.
Gardons la bonne étoile, ouais.
Bon, bah, on croise les doigts. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cet album. On sera
merci
avec
merci,
vous.
Merci beaucoup.
À la release à Paris pour, en mars, à la Maroquinerie. D'accord. Et on vous fait surtout de très très gros bisous. On va se multiplier par 5.
Ok.
Aux uns et aux autres. Et on vous encourage effectivement magnifiquement. Cet album est vraiment superbe, très varié. Enfin, c'est le fond du cœur que.
C'est très gentil. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Gros bisous. À très bientôt.
Ouais, à bientôt.
Kenavo, Bouchik.
Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.